Bonsoir à tous et à chacun. Serge Receveur au microphone. Nous sommes réunis ce soir pour recevoir dans le salon Albert Mola Jean Guinel, qui nous entretiendra de l'ouvrage qu'il a publié aux éditions La Découverte avec Roger Faligo et Rémi Kaufer, Histoire politique des services secrets français de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. Je salue également tous nos auditeurs qui nous écoutent au travers du site mola.com. Jean Guinel, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames, Messieurs, je tenais absolument à vous présenter ce livre pour deux raisons essentielles. La première est que j'estime qu'un pays comme la France se doit d'avoir un service de renseignement de haut niveau et pour ce faire avoir les moyens de recruter des éléments brillants, car certains enjeux sont d'importance. Or, nos concitoyens connaissent mal notre service de renseignement extérieur. La seconde, comme ce livre le démontre, la réalité dépasse la fiction. Cet ouvrage rend plus de 6000 noms. Il est le fruit d'un travail considérable et, à mes yeux, exemplaire. Il est tellement exemplaire, sinon je ne vous le présenterai pas d'ailleurs. Nous savons bien que les services secrets se doivent de l'être secrets. Aussi, je salue le travail d'investigation des auteurs. Je ne voudrais pas dénaturer ce livre, mais on peut dire qu'il se lit comme un roman. Vous avez à chaque fois les parties historiques des périodes étudiées, l'analyse d'opérations marquantes réalisées durant la période de référence, leurs réussites, leurs échecs. Puis vous avez des portraits des acteurs, car contrairement à ce que l'on peut penser, cette histoire est profondément humaine, souvent justifiée par des raisons d'État, mais aussi bon nombre de coups tordus. Nous ne pourrons pas aborder tous les sujets que vous avez traités, Jean Guinel. On ne résume pas 70 années en 45 minutes. Je vais devoir faire dans l'arbitraire. Et je vais prendre des périodes, quelques opérations et quelques personnages. Mais vous allez d'abord nous rafraîchir les idées et nous faire l'état des lieux de la situation de nos services secrets pendant la Seconde Guerre mondiale et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour voir à peu près où est-ce qu'on en est. Et ensuite, on parlera de sujets particuliers.
Merci beaucoup. Alors, si nous avons choisi d'appeler ce livre « Histoire politique des services secrets français », c'est que nous avons considéré que ce qui est important dans cette relation entre le pouvoir qui détient l'autorité publique et les services secrets, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi parfois les services spéciaux, qu'on appelle aujourd'hui la DGSE et la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qu'on a appelé autrefois, jusqu'en 1982, le SDEC, Service de Documentation Extérieure et de Contre-espionnage, et auparavant DGER et d'autres noms qui ont abouti à la création du SDEC après la guerre. Ce qui est intéressant, c'est la constante de la relation entre ces services et le pouvoir politique. Alors le pouvoir politique, il est, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est naturellement incarné par le chef de la France libre, qu'est Charles de Gaulle. Et puis après, ça va être la 4e République, puis la 5e République. La 4e République, ce sera le président du Conseil, et la 5e République, ce sera le président de la République. Dans la Seconde Guerre mondiale, les services secrets sont nés évidemment dans la douleur, ils sont nés dans la guerre contre l'occupant, mais on a eu à cette époque deux conceptions des services qui se sont opposées, l'une incarnée par le BCRA du général de Gaulle et l'autre incarnée par les services issus de l'armée d'armistice qui ont agi dans la résistance intérieure et qui étaient au moment de la reprise de l'Afrique du Nord sous l'autorité du général Giraud. Le général Giraud et le général de Gaulle avaient deux conceptions différentes des services secrets. Pour le général Giraud, il s'agissait d'un bras Mais c'est donc pour le général Giraud, c'était une conception extrêmement classique des services clandestins, qui consistait à dire c'est un des éléments du désarmé, un des éléments de l'action armée contre l'occupant. Et donc, ils doivent être sous mon autorité, général Giraud, mon autorité militaire. Et le général de Gaulle, lui, avec une conception complètement différente. Pour lui, les services secrets sont d'essence politique. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent être soumis qu'à l'autorité directe du politique. C'est-à-dire, c'est un bras armé, clandestin, agissant sous l'autorité directe, la sienne, c'est-à-dire du politique. Et c'est cette conception-là qui a gagné, c'est cette conception qui s'est imposée, et c'est cette conception qui perdure aujourd'hui, qu'on a retrouvée dans la Constitution de la 4e République, dans la Constitution de la 5e République, et qu'on voit aujourd'hui en œuvre, puisque malheureusement, ces services clandestins ont une actualité extrêmement brûlante aujourd'hui, puisqu'ils viennent de perdre 3 agents. Ce qui est l'opération la plus meurtrière depuis 1959. Donc ça fait quand même extrêmement longtemps. La dernière opération qui a été aussi meurtrière, même un peu plus, c'était pendant la guerre d'Algérie. Voilà. Donc aujourd'hui, les services secrets français sont différents des services de renseignement. C'est-à-dire la DGSE, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Ce n'est pas la direction du renseignement intérieur, la DCRI, parce que elle, la DCRI, travaille au profit de l'autorité judiciaire, sous les ordres de l'autorité judiciaire, le plus souvent. Le renseignement militaire, la direction du renseignement militaire, travaille au profit du chef d'état-major des armées, donc c'est un service de renseignement militaire. Et les autres services de renseignement qui dépendent notamment du ministère des Finances, c'est notamment les douanes et ce qu'on appelle le GAFI. Le GAFI, je ne me souviens plus du sigle, mais c'est ceux qui agissent sur l'argent sale, le blanchiment. Et c'est eux qui surveillent les mouvements financiers internationaux. Donc, ils dépendent du ministère des Finances. Mais la DGSE ne dépend que du chef de l'État, chef des armées, qui lui donne ses ordres.
On retourne à la guerre. Arrive donc Passy, qui fait le ménage, mais qui est aussi atteint quand même.
Alors, Passy, c'est une histoire. Le colonel Passy, qui s'appelle en réalité De Vavrin, c'est une histoire très particulière, très liée à la guerre, puisque quand il arrive à Londres, il n'est rien. Il est un très jeune officier de professeur à Saint-Cyr, professeur de fortification. Il a un peu plus d'une vingtaine d'années. C'est vraiment quelqu'un de très, très jeune. Et le général de Gaulle va lui confier la constitution de son service de renseignement et d'action, qui va être le BCRA, dont le 70e anniversaire a été fêté l'an dernier, donc a été créé en 1942. Et Passy va agir, va faire des prodiges avec très peu de gens, et va doter le général de Gaulle d'un service tout à fait efficace, et qui avait, au regard du général de Gaulle, vocation à fédérer l'ensemble des services de renseignement. Et après la guerre, parce que rien n'est jamais simple dans les services secrets, Passy va être accusé d'avoir, non pas d'avoir constitué un trésor de guerre pendant la guerre, mais de l'avoir utilisé à ses propres fins, peut-être pour du financement politique déjà, mais donc il va être viré, incarcéré même, je crois. Et ça s'est très très mal passé, et il a rompu ensuite avec ce milieu, et voilà. Donc tout ça est détaillé naturellement.
Vous avez tous les détails,
lu avec une énorme attention.
Il faut que vous nous parliez, parlez-nous aussi un peu que nos copains anglais qui quand même torpillaient un peu dans le coin quand même.
C'est le jeu habituel de ces milieux, c'est-à-dire que à la fois dans les services de renseignement, les gens travaillent ensemble, en principe, dans un but unique qui consiste à servir l'État ou son représentant le plus éminent. Mais pendant la guerre, les services français vont être... Les Anglais ont beaucoup de mal à supporter la manière dont fonctionne le général de Gaulle, et le fait qu'il se dote de son propre service de renseignement et d'action, alors que les Anglais ont eux aussi un service qui agit en France libre et qui s'appelle le SOE, ils vont se torpiller, enfin les Anglais vont tenter de torpiller le système mis en place par le général de Gaulle et de faire des coups bas. Donc c'est essentiellement Rémy Cover qui a écrit sur cette période et sur ces affaires-là, et on révèle beaucoup de choses sur les détails sur la manière dont les Anglais ont cherché à torpiller les services français pendant la guerre.
Alors, il y a un fantastique ensemble d'études sur la guerre d'Indochine. Je vais vous dire, c'est qui représente quelques pages. Il y avait belle lurette que j'avais pas lu quelque chose d'aussi complet sur la guerre d'Indochine. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Parce que vous y consacrez pas mal de pages et c'était quand même une période extrêmement particulière.
Oui, parce que lorsque la guerre se termine, la Seconde Guerre mondiale se termine, les services français doivent s'adapter à une nouvelle période. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte, quand on a un ennemi aussi flagrant, aussi déterminé, aussi puissant que les Allemands, on ne se pose pas beaucoup de questions pendant une guerre comme celle-là. On agit, voilà. Mais lorsque va commencer la guerre d'Indochine et cette guerre de décolonisation qui va être extrêmement meurtrière et qui va durer longtemps, les nouveaux services secrets français vont mettre en œuvre les techniques qu'ils ont apprises pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils vont chercher à fédérer des oppositions au Viet Minh en Indochine. Ils vont mettre en place un renseignement technique extrêmement puissant qui va permettre au commandement français de connaître dans le détail les plans d'opération de l'adversaire. Il va mener des opérations très complexes avec des maquis autochtones qui vont être difficiles à financer. Et ils vont être parfois financés par des moyens un peu bizarres, notamment par le trafic de drogue. Extrêmement limite. C'est extrêmement limite. Et avec une très large autonomie, puisque le gouvernement n'est pas forcément averti de tous ces détails. Et on va voir émerger des personnalités tout à fait étonnantes, qui ont été formés à la guerre clandestine par les Anglais, notamment en Inde. Et je pense à l'un d'entre eux qui s'appelle Jean Deuve, qui est un personnage tout à fait passionnant, qui est l'un de ces petits Français sortis de Normandie et qui va passer par les écoles de la jungle que les Britanniques ont installées en Inde avant d'être parachuté sur le Vietnam, en Indochine. Et... Jean Deuve est intéressant parce que il va passer du temps au Vietnam, monter des maquis, combattre les Japonais puis les Viet Minh, et puis il va passer au Laos où il va devenir d'abord le chef de la police laotienne qui est un protectorat, donc c'est une pseudo-indépendance. Mmh. Il va devenir le chef de la police, puis il va monter un service de renseignement et il va devenir quasiment le plus important personnage de la France dans cette partie du monde, avant d'être renvoyé très tard dans les années, je n'ai plus la date en tête, mais dans les années 60, lors d'un coup d'État, et de devenir à Paris le directeur du renseignement du STEC, c'est-à-dire le numéro 2 du service.
On va quitter l'Indochine et on glisse vers la guerre à l'Est, parce qu'il s'y passe quand même des choses plus qu'intéressantes. Donc, guerre secrète à l'Est. Et on a notre agent dans les services de la RDA, qui s'appelle Nabor. Racontez-nous ça.
Alors, on a une l'histoire du SDEC dans la guerre froide est tout à fait saisissante parce que le SDEC il est chez lui, il est dans son élément, dans les anciens territoires de l'Empire français, quoi. C'est-à-dire l'Asie, l'Afrique. L'Est de l'Europe n'a jamais été sa spécialité la plus éminente. Pas vraiment. Mais, notamment en Allemagne, ils vont mettre en place des systèmes techniques et des hommes qui vont vraiment réussir des exploits tout à fait saisissants et qui vont avoir des guerres très vives contre leurs adversaires. Et on raconte plein d'histoires. Il y a l'histoire Nabor. Les services de l'Est ne vont avoir de cesse de retourner des agents français, de les faire travailler à leur profit. Les Français vont le faire aussi. On a aussi des...
D'ailleurs, vous dites, à un moment donné, on a des taux.
Il y a des taux, bien sûr.
Des taux chez nous.
Et puis, on a des histoires qui sont des histoires très dures. On raconte la mort de l'adjudant Mariotti, alors qu'il n'était pas quelqu'un du SDEC, mais vous allez comprendre pourquoi c'est très important, qui n'était pas quelqu'un du SDEC, mais qui appartenait, lui, au renseignement militaire, et qui avait pour mission, à partir de Berlin, d'entrer en Allemagne de l'Est, de manière acceptée par les puissances orientales qui faisaient la même chose à l'Ouest, et d'aller observer la manière dont manœuvraient les forces, les équipements dont ils disposaient, les nouveautés. Et Mariotti a été, alors que c'était quelqu'un qui se comportait scrupuleusement aux règles qui avaient été établies entre les alliés, les Français travaillaient tellement bien que les Allemands de l'Est ont voulu leur donner une leçon assez terrible, puisque avec un gros camion, ils ont écrasé la voiture des Français, ils ont tué Mariotti et blessé les deux autres. Et j'ai rencontré celui qui était assis à la place arrière, dont le nom m'échappe à la seconde, qui est maintenant général parti en retraite, et qui a vécu vraiment ça comme une affaire très traumatisante. Et ce qui est intéressant, et pourquoi est-ce qu'on a développé cette affaire dans la relation avec le politique, parce que quand Mariotti est mort... Le politique n'a pas du tout assumé cette mort. C'est-à-dire, il n'a pas voulu rendre à Mariotti les honneurs qui, à mon sens, à notre sens à nous, lui auraient été dus en tant qu'agent travaillant au profit de la France et mort en service commandé. Et donc, il a eu des obsèques un petit peu à la sauvette, honorable, mais pas au niveau que ses camarades étaient en droit d'attendre. Alors que dans une période à peu près similaire, il y a eu un officier de renseignement américain qui a été tué par une sentinelle dans des conditions pas exactement semblables, mais qui lui ressemblaient beaucoup. Et cet officier américain a été enterré avec des honneurs considérables au cimetière national d'Arlington, en présence du vice-président des États-Unis. Et ça nous a semblé assez symptomatique de la manière dont le politique français considère le renseignement, qui est toujours quelque chose qu'on manie avec précaution, en se pinçant le nez, en ne revendiquant pas les actes qu'on lui demande de faire, alors que pour les Américains, par exemple, ou pour les Britanniques, il n'y a strictement aucun problème de revendication ou d'acceptation des missions conduites par les agents secrets. Et on a voulu souligner cet aspect. Alors, quand même, vis-à-vis des Britanniques, on peut aussi considérer qu'ils sont les champions du monde de la traîtrise, puisqu'ils ont quand même de très, très nombreux agents qui sont passés à l'Est, notamment les fameux 5 de Cambridge, après Kim Philby.
Philby.
Voilà. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup moins d'histoires de trahison dans les services français.
Vous nous parlez de Nabor ?
Alors, je suis désolé, c'est pas moi qui ai écrit cette histoire.
On passe
de Nabor. Je la connais, mais je suis vraiment
On laisse tomber Nabor. Les guerres coloniales, la France-Afrique, parce que très vite, on parle de la France-Afrique.
Alors... La France-Afrique, c'est un mot qui a été inventé.
C'est où Fouette Boigny
qui l'invente en 73. Oui.
Et dont on reparle maintenant d'un coup, ça ressort, voilà. N'est-ce pas, évidemment.
Alors, avec l'histoire des services spéciaux en Afrique lors de la décolonisation, c'est une histoire qui méritera encore sans doute beaucoup de livres, parce qu'on n'a pas fini du tout de comprendre tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu les Français qui ont traité les affaires de décolonisation. Le SDEC a travaillé au profit du général de Gaulle, notamment au moment de l'indépendance des États africains, pour grosso modo punir les opposants qui n'acceptaient pas les choix de la France. C'est-à-dire ceux qui, par exemple, Sékou Touré en Guinée, qui n'a pas accepté les choix de la France, eh bien le SDEC lui a pourri la vie. Les opposants aux nouveaux dirigeants qui avaient été choisis par Paris, ou en tout cas en relation avec Paris, ont été éliminés. Le SDEC a aussi beaucoup travaillé lors de la décolonisation portugaise avec les services, leurs homologues de la PIDE de Salazar, du dictateur, et ça n'a pas été des périodes, des promenades de santé. Et moi, j'ai particulièrement travaillé sur un épisode qui n'est pas très glorieux pour la France, qui est l'affaire du Biafra, où le général de Gaulle a voulu s'opposer. A voulu trouver un moyen de s'opposer à l'État nigérian, du Nigeria, qui était, dont la puissance démographique était absolument sans comparaison avec celle de l'Afrique francophone, et qui a voulu l'affaiblir, d'autant plus qu'il avait d'importantes richesses pétrolières. Et donc, le général de Gaulle, par l'intermédiaire de son exécutant des bases œuvres, qui était Jacques Faucard, a agi de manière clandestine et secrète pour aider la sécession d'une province qui s'appelle le Biafra et qui était dirigée par le colonel Eyogbu. Et donc pendant des années, la France a livré des armes clandestinement. Aider des mercenaires à aller au Biafra, apporter un soutien politique aux sécessionnistes, et contribuer par son action très très vigoureuse à partir du Gabon notamment, avec des acrobaties qu'on raconte en détail dans l'ouvrage, mais avec des moyens énormes, humains et matériels, a soutenu à bout de bras la sécession biafraise. Et pour ceux qui se souviennent des images qui ont été diffusées à cette époque, c'était vraiment une guerre dont les populations civiles ont été les principales victimes. Et il y a eu des centaines de milliers de morts. Et il est très certain que si la France n'avait pas soutenu cette sécession dont l'initiative était vouée à l'échec, parce que c'était impossible que ça marche, il y aurait eu beaucoup moins de morts. Enfin, c'est une opération complètement ratée, dont le SDEC a été parti. Il n'a pas été seul dans cette opération, puisqu'il y a eu d'autres structures dont on raconte aussi le détail. Mais il s'est passé vraiment en Afrique, sur le pré-carré français, des choses tout à fait incongrues. L'usage de mercenaires, le rôle des Français dans les guerres interminables au Congo, qui continuent encore aujourd'hui, le rôle des Français au Tchad, qui a été très très important, et on révèle dans le livre des épisodes très très précis où le SDEC va agir avec des mercenaires pour modifier les structures politiques du Tchad, et on raconte ça avec beaucoup de détails. Et c'est vraiment des opérations qui aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette époque, mais ça a duré jusque dans les années 80. Donc c'est quand même une période très très longue de l'histoire de France. Et aujourd'hui, on voit que, pour rapporter ça à l'actualité d'aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, l'action du SDEC n'est plus là, la DGSE n'est plus là pour renverser des pouvoirs démocratiquement élus, ou c'est plus comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, au contraire, on voit la DGSE agir, par exemple, en Somalie, lorsque ce malheureux Denis Alex a été kidnappé. On voit bien que la DGSE avait envoyé des experts, donc Denis Alex et un autre qui a réussi à s'échapper après avoir été kidnappé, avaient envoyé ces experts pour aider l'embryon tout à fait affaibli et même très, très faible de l'État, pseudo-État somalien, à se doter d'une armée minimale, quoi. Et donc c'était une coopération clandestine, mais donc qu'on ne peut pas condamner dans son esprit. C'était une bonne...
C'était pas de la déstabilisation.
Pas du tout. Ouais. C'était du c'est ce qu'on appelle en anglais le nation building, c'est-à-dire d'utiliser des moyens clandestins, discrets, pour aider des gens qui sont dans un état de déliquescence catastrophique à se reconstituer, à se créer une colonne vertébrale militaire, à s'en sortir convenablement. Et... on voit où ça mène, puisque on voit les engrenages dans lesquels les choses se produisent, puisque ce monsieur a été arrêté, a été interpellé, kidnappé en juillet 2009, et donc les Français ont essayé de le libérer le 11 janvier dernier, donc ça fait moins de 15 jours, et ça fait deux semaines exactement. Et vous avez vu tous les moyens absolument démesurés qui ont été mise en place pour sortir ce gars de sa prison, et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Et on voit là extrêmement bien dans cette affaire tout à fait récente, on voit les problèmes que posent les services secrets quand on est un dirigeant politique. Alex est enlevé pendant que Sarkozy est président, et Nicolas Sarkozy ordonne de manière normale de faire cette opération d'aide à l'État somalien et utilise un outil qu'il a à sa disposition et qui est la DGSE. Il n'y a rien de choquant là-dedans. L'officier est arrêté, est kidnappé et martyrisé pendant 3 ans et demi. Et c'est le successeur de Nicolas Sarkozy, donc François Hollande, qui décide, bien sûr parce qu'il pensait, d'après ce que lui avait dit le service, que les conditions étaient réunies, il décide de lancer une opération énorme pour le libérer. Et malheureusement, ça échoue. Et pire que ça, y a encore 2 officiers qui meurent pendant cette... C'est-à-dire, on se retrouve avec 3 morts. Le kidnappé, un officier venu le libérer qui, dont le corps reste sur place, et un officier donc, qui meurt lors du retour sur le bateau. Donc... vous imaginez dans quel état de traumatisme et de rage se trouvent ces agents français, puisqu'ils ont perdu 2 copains dont ils n'ont pas rapatrié les corps. C'est pour eux, c'est tragique. Et ils en ont perdu 1/3 qui a été enterré hier à Perpignan. Donc vous voyez, on est vraiment dans l'actualité la plus immédiate, la plus brûlante. Et la DGSE, pendant ce temps-là, cherche à récupérer les otages du Mali, du Sahel. Donc on est vraiment avec des outils qui servent, qui sont nés dans la guerre et dans la clandestinité de la lutte contre l'ennemi sur le sol français, et qui aujourd'hui, après des passages par des étapes tout à fait différenciées, continuent aujourd'hui d'être des outils que le politique utilise. Et donc c'est pour ça que c'est passionnant à étudier, parce que il y a plein d'anecdotes, plein d'histoires humaines, plein d'histoires politiques, militaires autour de la vie de ces services. Mais il y a aussi une constante, c'est que c'est un outil au service de l'État français commandé par le chef des armées. C'est un outil dont on sait qu'il agit clandestinement sur le sol français alors qu'il n'en a pas le droit. Non. C'est interdit. Donc il viole les lois françaises tous les matins et tous les soirs avec ardeur. Et sa vocation est d'être utilisé en territoire étranger contre les lois des pays sur lesquels il agit, dans lesquels il agit. C'est-à-dire il viole les lois des pays étrangers et il ne respecte pas les lois françaises. Et tout ça est dirigé par le président de la République. Et tout ça ne choque personne parce que ça se conduit, sauf accident, dans des règles, dans le respect, peut-être pas de la lettre des lois, mais dans l'esprit des lois. Donc c'est vraiment quelque chose dans la vie publique française, quelque chose d'extrêmement particulier.
Et c'est comme ça qu'on fait des opérations hors-jeu contre Nasser et Ben Bella, pour reprendre la chronologie de nos affaires, et le détournement du DC-3 de Ben Bella.
Ben oui.
Et là, avec un bénéfice politique nul.
Voilà.
Mais une réussite
technique
de l'opération.
Une très belle réussite technique qu'est là, donc le détournement de plusieurs chefs de la rébellion algérienne. Et avec l'une de ces carabistouilles dont les services, qu'ils ont un petit peu arrêté de faire maintenant, mais dont ils sont coutumiers, ils ont la possibilité, ils ont monté une opération dont on révèle énormément on a notamment des témoignages des organisateurs de l'opération qui sont inédits, totalement inédits. Il y en a beaucoup d'inédits dans le livre, mais là, il y en a un qui est tout à fait saisissant, parce qu'il change la vision qu'on avait de cette affaire. Mais quand ce détournement est organisé, le SDEC sait qu'il va y avoir un problème avec son autorité de tutelle, qui est le président du Conseil. Le président du Conseil, c'est Guy Mollet, et l'opération se monte dans l'urgence. Il est normal et légitime, et c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Le service ne prend pas d'initiative. Enfin, il peut prendre des initiatives, mais quand il s'agit que l'action soit décidée et qu'elle trouve sa concrétisation, donc quand il est possible de détourner l'avion, il faut un feu vert du pouvoir politique. Et le feu vert donné par le pouvoir politique à des services secrets, ça ne peut être que le plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire à l'époque le président du Conseil, Guy Mollet. Comme le service se dit que si on demande à Guy Mollet, c'est pas gagné, c'est pas sûr, va falloir le convaincre, alors ils vont faire une de ces petites entourloupes dont ils sont spécialistes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller voir Guy Mollet, mais qu'ils vont aller voir leur chef direct, qui n'agit naturellement que sous l'autorité de Guy Mollet, qui s'appelle Maurice Bourgès-Monnery. Et Bourgès-Monnery va leur donner le feu vert, sans prévenir Guy Mollet. Voilà, et c'est comme ça qu'on a des carabistouilles, c'est-à-dire que l'opération est faite, mais Guy Mollet ne le sait pas. Donc évidemment, il n'est pas content. Voilà. Et alors après, ajouter à ça, quand des initiatives sont prises à l'intérieur du service par des éléments individuels agissant de manière totalement autonome, sans en référer, comme on a... Alors là, c'est l'affaire Ben Barka.
Ah voilà, j'allais y venir.
Voilà, donc l'affaire Ben Barka, c'est encore
affaire un... Affaire vulgaire et subalterne.
C'est, voilà.
A dit De Gaulle.
Voilà, qui n'a rien que de vulgaire et de subalterne. C'est une affaire qui est dans un... c'est un autre cas d'école, une autre épure, où là, vous avez un groupe d'agents ou quelques agents qui appartiennent effectivement au SDEC, qui sont des honorables correspondants ou qui lui appartiennent au SDEC, et qui vont, en réalité, dans une espèce de dévoiement de leur rôle d'agent de l'État, collaborer avec un service étranger, en l'espèce les services marocains, et conduire sur le sol français, avec les moyens français, avec l'autorité de leurs fonctions, sans directive aucune, vont collaborer avec un service étranger pour engager les deux plus énormes opérations qui ont déstabilisé l'État français, c'est l'affaire Ben Barka et c'est l'affaire Greenpeace, donc qui sont des affaires totalement différentes par nature, mais ce sont elles qui ont vraiment déstabilisé l'État depuis le début de la Ve République. Mais l'affaire Ben Barka ne met pas en cause le SDEC en tant que tel, en tant que structure d'État. Ce sont des agents agissant de manière félonne qui ont provoqué la crise. Et donc ça s'est passé en 1965, donc il y a 50 ans bientôt, et on n'a toujours pas... retrouver le corps de Ben Barka.
On arrive à l'ère Maranche. Racontez-nous qui est Alexandre, dit Dagobert,
alors Alexandre
dit Porthos.
Voilà, Alexandre de Maranche, c'est un C'est un personnage complètement atypique dans l'histoire des services secrets français. C'est un colosse. Moi, je l'ai connu un peu. Avant sa mort, bien sûr. Je travaillais déjà à Libération. Enfin, je travaillais à Libération. Je l'ai rencontré. Pour dire que c'était quelqu'un qui avait l'esprit large, je l'ai rencontré. Mes co-auteurs, Faligo et Koffer, l'ont rencontré aussi dans d'autres. Dans un autre cadre d'enquête journalistique, mais on n'était pas ensemble, quoi. Et c'était un colosse, il mesurait plus de 2 mètres, il était extrêmement gros, de bedaine.
Énorme.
Vraiment
énorme.
Une. Voilà.
Sa femme aussi, d'ailleurs.
Ah, ça, je ne l'ai pas connu.
Mais sa femme aussi.
Voilà. Et il était un aristocrate richissime. Sa mère était écossaise. Il était vraiment d'une famille extrêmement fortunée. Et il n'avait jamais eu besoin de travailler pour vivre. Et puis un jour,
je ne suis pas achetable, me disait. Voilà. On ne peut pas m'acheter. J'ai tellement d'argent que de toute façon, ça ne sert à rien. Voilà. Je ne suis pas achetable.
Voilà. Et il avait une conception aristocratique de ce métier, c'est-à-dire qu'il ne parlait qu'au chef d'État, ne s'intéressait qu'au maître du monde et ne s'occupait pas tellement des détails, mais voyageait beaucoup, voilà.
Et il avait son réseau.
Voilà, il avait son réseau familial, personnel et tout ça. Il avait été l'aide de camp du général Juin pendant la campagne d'Italie. Enfin voilà, c'était vraiment un personnage très haut en couleur. Parlant avec une forme de assez hautaine, voilà, mais tout à fait charmant. Et moi, il me recevait au Jockey Club. Je n'y étais jamais allé avant, je n'y suis jamais retourné depuis. Mais il y avait une salle, je me souviens qu'il y avait une salle grande comme celle-ci à peu près, mais circulaire, avec des boiseries noires, très très sombres. Et sa table était au milieu, mais il était tout seul.
Il avait sa table.
Avec son invité. Donc c'était quand même assez étonnant. Et il s'est agi de remplacer en 1969 le chef de service qui partait et qui était, j'ai oublié son nom, c'était un des généraux, c'était toujours des généraux qui avaient dirigé le SDEC après le départ de Passy, pour sauf rares exceptions. Et
c'est Guibaud.
Voilà, c'est le général Guibaud qui s'en va. Et 69, il faut trouver un successeur. Et c'est Pierre Messmer qui va écrire à Georges Pompidou pour lui dire « j'ai trouvé quelqu'un ». Et il lui explique que dans un courrier dont on reproduit des extraits, totalement inaccessible à la corruption, à tout ce qui fait les failles habituelles des chefs de services de renseignement, et qu'il ne s'intéresse qu'à la marche de l'État et au service du chef de l'État. Et donc, sur le conseil de Pierre Messmer, Pompidou va le nommer au SDEC, et il va y rester jusqu'à l'arrivée de François Mitterrand, en 1981, il va rester là pour faire sortir le service secret de la période difficile d'après-guerre d'Algérie, d'après décolonisation, d'après Ben Barka, et pour le faire entrer dans une ère beaucoup plus moderne.
Mais ça déménage, hein.
Ah oui, mais il a viré plein de gens dès en arrivant, il a...
C'est la tornade blanche.
Voilà, et puis lui, pour le coup, il va prendre beaucoup d'initiatives dont il ne référera pas toujours aux politiques, et ça se passera extrêmement mal avec Valéry Giscard d'Estaing,
qu'il ne supporte pas. Qui trouve que c'est un faux noble, snob.
Voilà, voilà.
Intelligent, mais voilà, sans plus.
Voilà. Et pourtant, il va rester pendant tout le septennat, et puis il partira quand Mitterrand arrive. Mais il ne considérait pas possible de travailler avec un président socialiste ou un gouvernement socialiste.
Il ne voulait surtout pas de ministre communiste.
Voilà.
C'est surtout ce qu'il avait
mais
dit.
Mais parce qu'il n'avait pas compris que, il n'avait pas compris que ceux avec lesquels il n'y aurait pas de problème, c'était les ministres communistes. Puisque naturellement, Mitterrand était parfaitement averti du problème et les autorités françaises à l'époque ont dit qu'il ne pouvait pas y avoir de règles avec les communistes, qu'il était absolument insensé de prétendre dicter son comportement au gouvernement français, qui avait décidé de manière souveraine de mettre des communistes et qui n'avait rien à dire à personne. Et d'ailleurs, en France comme ailleurs, on appliquera vis-à-vis du secret les règles qui prévalent dans l'OTAN et vous verrez qu'il y aura zéro problème. Les règles qui prévalent dans l'OTAN, il se trouve qu'elles interdisent de communiquer des informations sensibles à des communistes. Donc les ministres communistes ont été privés de tout accès à l'information confidentielle pendant leur présence au gouvernement. Et l'affaire a été réglée comme ça. Donc Alexandre de Maranche n'aurait pas dû s'inquiéter.
Alors il travaille avec un bonhomme qui s'appelle Alain de Gagneron de Marolles.
Oui.
Parlez-nous de Marolles.
Alors Alain de Marolles...
Qui est une personnalité aussi.
Alain de Marolles, c'est aussi une personnalité... c'est un officier de l'armée de terre, très classique, très... très intelligent, brillant, et qui va être notamment le patron du service action pendant les années Giscard, et qui va... alors on passe assez discrètement là-dessus, parce que les affaires ne sont pas toutes confirmées, donc il faut être assez... voilà. Mais dont on a soupçonné au gouvernement et à l'Élysée qu'il avait été approché et retourné par les Russes. C'est sans doute une manière de d'écarter des gens qui dérangent, qui ont une personnalité trop forte. Lui a mené des opérations tout à fait spectaculaires en Libye, au Congo. Après Colvézi, après l'opération de Colvézi, le SDEC a fait des opérations très meurtrières contre les Allemands de l'Est et contre les Cubains sous la direction de Marolles. Donc il est considéré au service comme une des grandes figures du service, mais comme souvent, il a été écarté dans des conditions qu'il n'a pas appréciées, qui n'étaient pas très élégantes, alors que c'était un grand serviteur de l'État, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais vous savez, on a beaucoup de personnages hauts en couleur comme ça, le général Rondeau qui a été mis en avant dans des conditions... un peu pénibles dans l'affaire Clearstream, était un des proche collaborateur de Marolles et un de ses amis. Et Rondeau a lui aussi été sorti du service sous le faux prétexte d'une relation indue avec des agents de l'Est. Donc c'est aussi le monde des services secrets, c'est aussi celui des purges, des avis sommaires, des expulsions, parfois des ravages humains faits par des gens qui en accusent d'autres d'être des félons, alors que pas du tout, que ce sont des personnes souvent qui j'ai vraiment été étonné et je suis toujours étonné de voir que, mis à part quelques affaires, on a quelques affaires considérables, comme l'affaire Georges Pack, par exemple, qui est une véritable, grosse, énorme affaire d'espionnage en France. Mais Georges Pack n'était pas un agent du SDEC. Et au SDEC, on n'a pas vraiment d'affaires de retournement spectaculaires d'agents. On a des accusations. Des accusations, oui. D'agents subalternes, oui. Mais de grosses affaires comparables à celles de
Jean Philby,
de Philby ou aux affaires à l'affaire dont le nom m'échappe à la seconde et aux affaires nombreuses qui sont produites aux États-Unis ou en Russie, on n'a rien de ça en France à ce stade. Donc il faut croire que quand même la manière dont ces services étaient gérés n'était pas si catastrophique.
Revenons encore rapidement avec Dagobert. Les Américains le contactent et lui disent « on est embêtés, vous nous avez renvoyé Khomeini de Nauf, le château, il est maintenant en Iran, est-ce que vous nous avez une solution ?» Et qu'est-ce que Dagobert leur propose ? kidnapper Roménie.
Voilà. Mais
faut quand même le faire.
Oui. Mais c'est des solutions qui sont toujours. Vous savez, dans les services, c'est comme dans les dans ces structures où on est capable de faire beaucoup de choses. On échafaude des plans parfois complètement, enfin extrêmement audacieux et avec des facteurs de risque très élevés que les services secrets peuvent. Les services secrets peuvent se permettre de prendre des risques très élevés, de ne pas respecter les règles habituelles de la guerre. Mais évidemment, si vous prenez des risques très élevés, le risque d'échec est aussi très élevé. Et donc. Si vous y ajoutez un facteur de malchance, vous arrivez à des catastrophes. Avec l'Iran, les Français ont, de la DGSE, mais pas seulement, ont accumulé les catastrophes, les unes après les autres. Et les Français ont mis très 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 longtemps à comprendre que tous les malheurs dont ils étaient victimes au Liban, dans les années, début des années 80, étaient en fait des manœuvres indirectes des mollahs iraniens. Ils n'avaient pas compris ça. Ils ont mis beaucoup de temps à comprendre. Et quand ils l'ont compris, le politique, en l'espèce François Mitterrand, a dit on va leur montrer ce dont on est capable. Et ils ont décidé de manière... c'est la prérogative du politique, il fait ce qu'il veut en espèce, mais ils ont décidé d'aller faire sauter l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Et ça, c'était après une avanie particulièrement atroce, puisque c'était après l'affaire de l'immeuble de Rakar que les Iraniens avaient fait sauter, en provoquant, j'ai plus le chiffre en tête, mais autour d'une centaine de morts de parachutistes français. Et encore davantage chez les Marines américains au casernement d'à côté. Donc enfin, une provocation iranienne indiscutable qui méritait à coup sûr des représailles. Et donc le service action de la DGSE est prié de faire une action spectaculaire et décide donc de faire sauter l'ambassade d'Iran à Beyrouth. Alors on raconte cette histoire dans le détail. Le service action place une jeep contre le mur d'enceinte, met des explosifs à feu, ça n'explose pas. Premier problème, donc il décide de faire sauter la jeep avec un lance-roquette, avec un bazooka. Il tire avec le bazooka sur la jeep et ça ne saute pas. Donc, ils continuent, et puis ça ne marche pas, vraiment. La jeep reste là. Et voilà. Donc, évidemment, les Iraniens se rendent compte, sortent, et la jeep... Parce qu'à l'époque, en 83, les politiques, donc Mitterrand et les socialistes, s'étaient rendus compte, évidemment, ils le savaient, il y avait énormément d'attentats organisés à Paris, notamment par des factions moyen-orientales, et les politiques avaient demandé aux services secrets de réagir avec beaucoup de rapidité et d'organiser des représailles avec beaucoup de rapidité quand il y avait des attentats, donc de tuer des gens, de poser des bombes en rétorsion. Sauf que les services secrets, c'est pas des gens qui sont capables d'agir aussi vite, parce que c'est pas le problème de poser une bombe ou de tuer quelqu'un, c'est le problème de faire ressortir, ce qu'on appelle exfiltrer, les gens qui ont pratiqué cette opération, c'est-à-dire l'affaire avec un facteur de risque limité, qui ne permet pas d'impliquer la France, qui ne signe pas l'attentat et qui permet de faire sortir les gens. Avant qu'il y ait... Voilà. Alors à Beyrouth, avec la jeep, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que le service action a fait comme on lui a demandé de faire, c'est-à-dire a fait très vite, trop vite. La jeep a été prise dans les stocks de l'armée française, donc c'était marqué dessus « armée de terre ». Le minuteur était un minuteur de chez Lip à Besançon, c'était marqué dessus. L'explosif, c'était des explosifs avaient marqué armée de terre. Et on prétend, mais ça je n'y crois pas, qu'il y avait même un camembert dans le... Mais ça j'y crois pas. On nous l'a dit, mais voilà. Et donc ça a été une catastrophe intégrale, parce que les Iraniens ont dit mais comment, c'est pas possible et tout ça. Donc voilà, c'est le genre d'erreur. L'autre erreur commise... quelques années plus tard, c'est l'affaire Greenpeace. Donc, le chef, évidemment, du service action, il est viré après cette catastrophe à Beyrouth, et il est remplacé par un autre. Et l'autre dit, ce truc à Beyrouth a complètement foiré, moi je vais montrer de quoi je suis capable. Et donc quand le politique demande d'organiser une opération contre les militants de Greenpeace pour qu'ils n'aillent pas à Mururoa, le service action propose trois solutions. C'est-à-dire, c'est pour ceux dans cette salle qui connaissent la méthode de raisonnement tactique, et je suppose qu'il y en a, la méthode de raisonnement tactique de l'armée française, c'est on a trois hypothèses, H1, H2, H3. Et on propose au chef trois hypothèses. Et le chef choisit entre les trois hypothèses. Donc il y a généralement une hypothèse haute, une hypothèse moyenne et une hypothèse basse. Et donc, quand on demande aux nageurs de combat d'organiser la mission contre le bateau du Rainbow Warrior, alors, tout ça est évidemment raconté dans le détail dans le livre.
Alors, vous avez c'est quelques pages. Hein.
Voilà. Les nageurs de combat proposent trois solutions. Ils en proposent une qui ne fait qui n'est même pas visible, qui est extrêmement élégante au plan opérationnel, qui consiste à... Ils avaient réussi à récupérer chez Total. Alors, ne me demandez pas de détails, mais s'il y a des gens de l'industrie pétrolière ici, ils le savent peut-être. Dans les cuves de pétrole, dans lesquelles on stocke de l'essence ou du gasoil, se développent dans certaines conditions particulières d'épouvantables bactéries qui mangent le pétrole et qui le transforment en yaourt, quoi, en truc totalement inutilisable. Alors c'est un parasite quoi qui se développe et voilà. Et donc eux, les nageurs de combat, ils avaient récupéré cette bactérie qui sont des nuisances terribles pour les pétroliers. Ils en avaient récupéré un peu et donc ils ont proposé d'aller en mettre dans le réservoir du bateau. Avouez que c'était sportif et élégant. Et en plus, c'était d'autant plus sportif et élégant que c'est comme ça que les services français travaillaient depuis le début des années 70. Ils avaient fait, donc on raconte aussi en détail dans le livre, parce que ce n'était pas la première fois que Greenpeace voulait aller embêter les essais nucléaires à Mururoa. Donc, une fois, ils ont fait... alors, pour aller d'Australie ou de Nouvelle-Zélande à Mururoa, c'est un voyage extrêmement long. Donc, un petit voilier ou un petit bateau fait une escale notamment aux îles Cook. Eh bien... la première fois, on a mis le SDEC a mis du sucre dans le réservoir du bateau. Donc terminé, ils ont pas pu, il faut démonter le moteur et ça, donc plié parce que la période pendant laquelle vous pouvez voyager pour aller à Mururoa, faut passer entre les phénomènes météo et tout ça, donc c'est assez restreint. Et puis, après, ils se sont rapprochés du président des îles Cook. Et ils lui ont dit, vous allez voir, il y a un bateau qui va passer là, vous allez faire une inspection sanitaire et vous allez dire qu'ils sont tous malades. Ça n'a pas loupé, ils se sont fait mettre en quarantaine, ils n'ont pas pu partir. Et vous voyez, il y avait eu des choses comme ça au fil des années qui s'étaient mises en place et qui étaient très, très malines, quoi. Et donc la solution des bactéries était particulièrement élégante et les nageurs de combat étaient absolument persuadés que c'est comme ça que ça fonctionnerait. Ils avaient quand même donné une deuxième hypothèse qui consistait à placer une petite charge explosive contre l'arbre d'hélice du bateau. Et pour ceux qui naviguent, vous savez qu'un arbre d'hélice faussé, ben c'est fini, quoi. Le bateau ne peut plus naviguer, il faut démonter. Voilà. Et comme le Rainbow Warrior était un vieux chalutier hors d'âge, c'était fini, il allait à la casse, quoi. Mais il y avait zéro dégât, puisqu'il y avait juste un arbre d'hélice faussé, personne ne risquait rien et tout ça. Et puis, ils présentent une troisième hypothèse. Donc, moi, les nageurs m'ont dit, c'est des hypothèses qu'on a présentées pour mémoire, parce qu'on était obligé de présenter trois hypothèses. Donc, on en présente une bonne, mettre un explosif léger qui n'était pas très maligne, et une troisième complètement dingue, pour qu'ils en aient une à refuser, quoi. Eh bien, non, c'est celle-là qu'on leur a demandé de faire. Pourquoi ? Eh bien, parce que le politique voulait une action spectaculaire pour donner une leçon à Greenpeace. Et il y avait même des cinglés au cabinet de Charles Hernu qui voulaient faire couler le bateau en mer. Donc vous imaginez, là, il y avait 20 morts, quoi, ou plus. Donc voilà. Alors cette opération a été conduite beaucoup trop vite, sur un terrain que les Français ne connaissaient absolument pas. Ils ne connaissaient pas la Nouvelle-Zélande, ils n'y avaient jamais fait la moindre opération. Ils ne savaient pas que la Nouvelle-Zélande, parce que voilà, c'est un pays où tout le monde passe son temps à regarder les autres, et que les émissions de télévision les plus suivies, c'est des émissions de... Vous savez, il n'y en a pas eu vraiment en France, mais de dénicher le suspect qui dort chez le voisin ou un truc comme ça. Donc ils passent leur temps à ses pieds les uns les autres. Et donc voilà, c'est comme ça que la catastrophe s'est produite.
Mais les Époux-Turanges étaient repérables à 4
km. Ben, les Époux-Turanges, je vous rappelle qu'il y avait deux équipes. Une qui n'était pas destinée à être vue, qui était les Époux-Turanges. Donc Alain Maffard et Dominique Prieur. Eux étaient... ceux qui devaient transporter, notamment faire des repérages en catastrophe, les horaires de marée, les profondeurs et de la bathymétrie, tout ça, mais pas du tout avec le temps nécessaire pour le faire, repérer les abords. Et ils devaient aussi récupérer la charge explosive que des navigateurs, des marins, devaient apporter au nord de la Nouvelle-Zélande. Et donc, ils devaient se retrouver en voiture au milieu de l'île. Et puis, ils allaient apporter la bombe à l'équipe de nageurs de combat qui devait la poser. Et donc, moi, je me souviens très bien de cette époque, puisque j'ai enquêté là-dessus pour Libération. On était nombreux à travailler, hein, mais on avait les deux équipes. On a su assez vite que Maffard et Prieur étaient dans cette affaire, puisqu'ils ont été arrêtés rapidement. Et on a vu aussi qu'il y avait le bateau qui s'appelait l'Ouvéa, qui était arrivé en haut de l'île. Et on était convaincu que parmi ces équipes-là, c'est-à-dire l'équipe des Turanges et l'équipe des nageurs qui étaient sur le bateau au nord de l'île, eh bien, il y avait ceux qui avaient posé la bombe. On en était convaincu, on n'en connaissait pas d'autres. Et plus on a fait les recherches, les choses et tout ça, moins on comprenait, parce que matériellement, c'était pas possible que... ces gens-là, et on comprenait pas, on n'arrivait pas à comprendre. Et c'est comme ça que le Monde a sorti l'histoire de la troisième équipe. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait bien ces gens qui étaient sur le bateau, il y avait bien les Turanges, mais il y avait une troisième équipe qui avait posé la bombe. Donc, parmi laquelle, il y avait deux nageurs qui ont nagé sous l'eau pour aller poser la bombe, et le troisième qui était sur le Zodiac, qui était le frère de Ségolène Royal. Peter the Fisherman. L'homme au bonnet rouge. Et voilà. Et donc, cette affaire, de toute façon, n'aurait jamais dû être faite. Jamais le pouvoir n'aurait dû demander aux nageurs de combat d'aller couler ce bateau, qui était une ineptie totale. Et une opération intelligente aurait consisté à mettre des bactéries dans le moteur, comme ils l'avaient proposé. Mais on voit bien que là, la responsabilité... Évidemment, il y a un échec de l'opération, mais la responsabilité vient du politique à deux égards. C'est-à-dire, d'abord, ils ont donné un ordre imbécile, et après, ils ont menti. Parce que, on en parlait tout à l'heure avec monsieur, qui a bien connu l'amiral Lacoste, que je connais très bien aussi. L'amiral Lacoste, lui, aurait été tout à fait disposé à aller voir son homologue néo-zélandais. Et il en parle encore comme ça aujourd'hui, Lacoste. Il est maintenant, c'est un très vieux monsieur, mais j'en ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps. Et il me disait, mais bien sûr, il fallait que moi j'aille voir mon homologue des services secrets néo-zélandais, que je lui dise, voilà, c'est nous. On règle ça entre nous. Vous nous demandez, vous nous précisez combien on vous doit. On organise les rencontres entre les politiques pour un accord, voilà. Et puis voilà. Et puis moi je démissionne. Mais le politique n'a jamais voulu. Ernu a prétendu que c'était les Anglais qui avaient coulé le bateau et voilà. Donc vraiment la relation entre le politique et les services, c'est toujours des choses comme ça. C'est-à-dire, il y a plein de malentendus, il y a plein de... Le seul président de la Ve République qui n'a pas eu de problème avec les services secrets, c'est Nicolas Sarkozy.
Oui, alors vous dites...
Et François Hollande.
Que Sarkozy lucide, chef des espions.
C'est très curieux. Parce que on imagine Sarkozy, qui est un président très... très actif, très
intrusif,
très vif, très. Et on l'imagine demander des choses complètement saugrenues au service. Pas du tout. Pas du tout. Il les a beaucoup utilisées, notamment dans les affaires de prise d'otages, pour faire les négociations, pour éventuellement frapper des terroristes et tout ça. Mais il n'avait vis-à-vis des services secrets aucun complexe. Il ne les a jamais considérés comme des champions du monde. Et il ne les a jamais considérés comme des nuls. Il les a considérés comme un instrument efficace et dont il devait se servir. Et dans l'organisation des services secrets en France, il y a des périodes différentes. C'est-à-dire que depuis le général de Gaulle de la Seconde Guerre mondiale, de la France libre, jusqu'à l'affaire... Jusqu'à l'affaire Ben Barka, les services secrets sont dirigés par l'hôtel Matignon, par le Premier ministre. Quand le président de la République est élu au suffrage universel par De Gaulle, donc entre 62 et 65, mais bon, la période est trop courte historiquement pour que... L'autorité sur les services secrets est en réalité celle du chef des armées, mais il n'apparaît absolument pas. Il n'est officiellement aucunement chargé des services secrets, et c'est notamment Michel Debré, puisqu'on est pendant la fin de la guerre d'Algérie, c'est notamment Michel Debré qui instrumentalise et qui agit sur les services secrets. De Gaulle n'apparaît pas, alors qu'en réalité, il est présent, mais il n'apparaît pas. Donc, la chaîne de commandement du SDEC, à l'époque, c'est le directeur du général de la sécurité extérieure, il rencontre à Matignon. Et il prend ses ordres à Matignon et c'est tout. Après la fin de Ben Barka, les choses ont très profondément changé puisque le général de Gaulle n'avait plus confiance dans le SDEC. Et donc il a décidé de s'en décharger complètement, mais d'accorder cette autorité, de la transférer au ministère de la Défense. Et donc de la transférer à son fidèle Messmer, dont il était convaincu, à juste titre, qu'il ne lui ferait jamais de petit dans le dos. Donc, à partir de 1965 ou 66, on a une chaîne de commandement qui est le directeur des services, qui rencontre le ministre de la Défense, qui rencontre à Matignon. Ça, c'est la chaîne hiérarchique écrite. C'est ça la règle. Et ça va durer jusqu'à Nicolas Sarkozy. Parce qu'en 2008, Nicolas Sarkozy décide de changer cette organisation. Alors, il change l'organisation parce que il la met en conformité avec la pratique. En réalité, cette chaîne DGSE, ministre de la Défense, Matignon, est une fausse chaîne. C'est la chaîne visible, mais la vraie hiérarchie, c'est directeur des services, chef de l'État, en personne. Mais ça ne se dit pas. C'est pas public. C'est une pratique, pas clandestine, mais c'est une pratique qui n'est pas révélée au public et qui n'est connue que des gens concernés, quoi. Et Nicolas Sarkozy, qui donc n'a aucun complexe vis-à-vis de ça, il décide de changer cette organisation. Et il décide d'installer à l'Élysée, à côté de lui, un monsieur qu'on appelle le coordonnateur du renseignement. C'est-à-dire qu'il crée une structure nouvelle qui s'appelle le Conseil national du renseignement, j'espère que je ne dis pas une bêtise, qui est dirigé par un coordinateur et... Il n'y a plus cette fiction du ministre de la Défense et de l'hôtel Matignon, qui n'interviennent plus pour les services secrets que pour des questions financières, c'est-à-dire budgétaires. Et là, on comprend que, on sait, et c'est dit et c'est écrit comme ça, que c'est le chef de l'État en personne qui dirige les services secrets. Et l'objection que des observateurs comme moi, on a pu faire, c'est de dire... Dans le système précédent, on avait toujours cette possibilité pour le chef de l'État de faire ce qu'on appelle un démenti plausible, c'est-à-dire je ne suis pas au courant de ce que font ces imbéciles des services secrets, c'est l'affaire du gouvernement. Et observez ce que je vous dis, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire Greenpeace. Puisque Mitterrand a laissé dire que non, pas du tout, c'était Fabius.
Oui, Fabius
qui... Oui, Fabius qui... alors là, oui, s'il y en a un qui est innocent dans cette affaire, c'est Fabius. Il n'a rien vu du tout. C'est tout passé en dehors de lui. C'est tout passé en dehors de lui, ce qui est la vérité. Mais il s'est trouvé à porter le chapeau, parce qu'après, c'est lui qui... Bon, on voit bien que là, c'est une fiction. Et donc, c'est une fiction qui est très commode, parce que imaginez que le Rainbow Warrior ait été encore plus grave, ait été encore plus catastrophique, et ben, c'était pas Ernu qui sautait, c'était Fabius. Mais c'était pas le président. Dans l'organisation de Sarkozy, il n'y a plus de fusibles. C'est l'organisation que le président Hollande a conservée. Il n'y a plus de fusibles. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y ait, ce qui peut toujours se produire encore, une catastrophe comme ça, eh bien, le chef de l'État est directement impliqué dans l'affaire. Et ça pose quand même un sérieux problème. Alors, Sarkozy a répondu à ces objections, que tout ça n'avait aucune pertinence, parce que, vu la manière dont il dirigeait l'État, de toute façon, c'était lui qui décidait de tout, et qu'il n'aurait jamais pu se défausser sur un fusible s'il y avait eu un problème avec les services secrets, on aurait su de toute façon que c'était lui. Ce en quoi il avait parfaitement raison. Mais donc, il a mis en conformité la pratique et l'organisation administrative. Et là, on voit bien encore une évolution assez forte de la relation entre le politique et les services secrets, puisque, de fait, ça a plutôt pas mal fonctionné, puisque... il a choisi un directeur général de la sécurité extérieure qui s'appelle Erard Corbin-Mangou, qui était un de ses collaborateurs, et que François Hollande a conservé, peut-être pas pour longtemps après l'échec de Somalie, mais enfin bon, il l'a conservé. Et donc cette organisation ne doit pas être si mauvaise, puisqu'elle perdure, là. Et donc on a le deuxième président de la République qui accepte ce système. Et l'évolution qu'on peut voir maintenant, qui est la plus attendue, à défaut d'être la plus probable, c'est qu'on ait une implication plus forte du Parlement dans le contrôle. Mmh. C'est-à-dire l'implication du Parlement il y a plusieurs étapes possibles, c'est-à-dire que on peut très bien imaginer, par exemple, que ça n'a rien de choquant que le président de la commission de la Défense, par exemple, de l'Assemblée, et le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, qui ont compétence sur les affaires de sécurité, soient prévenus par le président de la République la veille de l'opération en Somalie, par exemple, qu'il va se passer quelque chose. Et ça, vous pensez bien que ce n'est pas des gens qui vont aller raconter ça aux journalistes. Il n'y a pas de risque. Mais en même temps, moi, en tant que citoyen, je serais assez satisfait que la représentation nationale ait quand même une petite relation avec ce type d'opération. Pas du tout au moment de la genèse, pas du tout au moment de la conception, mais qu'il soit averti un peu à l'avance pour être associé d'une manière ou d'une autre à ça. L'idée d'un contrôle sur les services ne peut pas être autre chose qu'un contrôle... financier et une implication plus forte du Parlement dans la définition des objectifs. Pour la conduite des opérations, franchement, j'y crois pas du tout à ce que le Parlement puisse avoir un rôle, ne serait-ce que de contrôle. Ça me paraît pas possible.
Bien, eh bien, je vous remercie infiniment.
Je vous en prie.